France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans C'est haut de mon amour, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Éric Morin et Fabrice Desmas de la technique, et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Maïté Adam qui réalise notre émission. Une humeur solidaire avec nos amis du Sud-Ouest qui se sont réveillés le week-end dernier, on le sait, sans eau ni électricité, avec des trous pleins la toiture, la cave inondée. Et quand du jour au lendemain, un méchant coup de vent vous transforme la forêt des Landes en mikado géant, eh bien nous, les bipèdes intelligents, tendance apprenti sorcier, forcément, on se prend un retour de modestie et d'humilité. Alors on passe chez le voisin pour voir si tout va bien, on se partage le groupe électrogène pour le congélateur, on se donne un coup de main pour nettoyer la boue, dégager les branches. Pour cette nuit, j'ai allumé le poêle à bois, si vous voulez, vous avez qu'à venir chez nous pour dormir. Et puis aussi reconnaissance pour les agents d'EDF, de France Télécom, de l'ONF, des pompiers, des bénévoles et tous ceux évidemment que j'oublie, qui ne peuvent attirer donc que notre sympathie. Retour à la case départ, quand Kurt, Klaus ou bien Katrina sortent le grand jeu et frappent à la porte, eh bien ce n'est pas la main invisible du libre-marché dont on a besoin, mais d'un vieux concept égaré quelque part au grenier de la civilisation du chacun pour soi et qu'on ne ressort qu'en cas de nécessité, qui s'appelle la solidarité. Alors vous m'oubliez, Adam Smith et ses disciples réunis à Davos ces jours-ci pour célébrer les 18 milliards de dollars de bonus que se sont accordés les banquiers de Wall Street aux frais des contribuables américains. Des fidèles qui, semble-t-il, et malgré la débâcle économique, n'ont pas exactement compris que dans l'équation de notre petit monde fini, ce n'est plus la somme des égoïsmes qui fait le bien commun et qu'il est peut-être temps d'abandonner l'arithmétique de l'appât du gain. En France, pour relancer la consommation d'électricité, eh bien on peut compter sur la solidarité des industries nucléaires. Eh oui, plutôt que d'encourager les économies, favoriser les énergies renouvelables et la production locale, ou bien enterrer d'ailleurs les réseaux électriques en prévision des tempêtes, eh bien on signe pour un deuxième réacteur nucléaire EPR avec son cortège de lignes à 400 000 volts. De quoi alimenter sans problème quelques millions d'appareils électriques en veille toute la journée, et vous n'aurez qu'à envoyer l'addition aux prochaines générations. Alors rassurez-vous, par-ci par-là, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou ailleurs, la solidarité, on n'a pas oublié. Entre voisins, on s'essaye à partager les connaissances, les techniques, avec quand même parfois de belles réussites, des fours solaires, des toilettes sèches, des purificateurs d'eau en Inde, agriculture douce, régénération des mangroves au Sénégal, construction des toits en terre avec la main d'œuvre et puis les matériaux du pays comme au Sahel. Et si, au lieu d'attendre la prochaine catastrophe, on commençait par se filer un coup de main préventif comme ça entre habitants de la planète, est-ce qu'à votre avis une petite dose de solidarité, ça ne lui ferait pas du bien à notre avenir commun? Alors au menu de cette émission, bien nous la terminerons justement en parlant des Landes avec Antoine Crémer qui est directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux, qui connaît bien cet univers donc des Landes et des arbres. On verra ce qui est soutenable et ce qui ne l'est pas. Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat et de l'énergie, nous parlera sans langue de bois donc de ce couple infernal avec son nouvel ouvrage 3 ans donc pour agir et effectivement pour le faire assez rapidement. Et puis tout de suite dans la raison du plus faible, eh bien Jean-Marie Pelt lui aussi va nous raconter une belle histoire de solidarité. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors nous poursuivons donc cette raison du plus faible. On va parler donc de coopération, de symbiose avec vous Jean-Marie, avec l'exemple des arbres et des champignons. Racontez-nous, je crois qu'on peut parler de valse d'ailleurs.
Oui, c'est une valse à 3 temps. Quand j'ai fait mes études, on apprenait que les arbres avaient des racines, ce qu'on savait déjà, que ces racines puisent dans le sol des sels minéraux et de l'eau, que tout ça monte par les vaisseaux jusque dans les feuilles, que dans les feuilles, l'eau servait à se combiner avec du gaz carbonique, que ça donnait des sucres grâce à la chlorophylle qui piquait la lumière du soleil comme énergie.
Premier temps.
Alors le deuxième temps laisse apparaître tout à coup des champignons. Voilà, des champignons viennent se mêler à l'histoire et on s'aperçoit qu'en fait, les racines sont prolongées par des filaments de champignons qui se répandent dans le sol et qui vont chercher pour les racines des sels minéraux que les racines ne sont pas très capables de sortir de terre, notamment les phosphates. Et les phosphates, c'est très important, parce que quand ces phosphates vont monter par les vaisseaux pour arriver dans les feuilles, il va se faire la synthèse de l'ADN aussi. Et l'ADN contient des molécules de phosphate. Donc, le champignon rend un service tout à fait étonnant à l'arbre, qu'on n'avait pas vu du tout à l'époque où je faisais mes études. Mais le champignon, il est sans chlorophylle, il est dans l'obscurité de la terre. Donc il ne peut pas faire la photosynthèse, lui. Il ne peut pas fabriquer de la matière vivante. Il n'a pas d'énergie solaire, il n'a pas de chlorophylle. Donc il faut le nourrir. Alors la sève qui descend par les vaisseaux va dans les racines et pas dans le champignon. D'accord. Et le champignon est nourri. Donc le champignon nourrit l'arbre en sels minéraux et l'arbre renvoie l'ascenseur et nourrit le champignon en matière organique.
Échange de très bons procédés.
Ah oui, c'est merveilleux, c'est une symbiose parfaite. C'est une des plus belles symbioses du règne végétal. Et puis alors, il y a le troisième temps. Alors celui-là, il est tout récent. On a découvert ça dans les, disons, petitement les 10 dernières années. En fait, ces champignons filamenteux mettent en relation des racines d'arbres différents. Et alors se constituent des potentialités nouvelles parce que les arbres ou les herbes d'ailleurs vont échanger grâce aux champignons. Il y a une petite plante, c'est une herbe là, qui s'appelle la monotrope. Il y a aussi une petite orchidée qui s'appelle la néocie. Ce sont des plantes qui ne font pas de chlorophylle, qui sont incapables de se nourrir. Eh bien, elles sont par leurs racines liées à des arbres. Pour la monotrope, c'est des pins. D'ailleurs, les gens l'avaient remarqué depuis très longtemps parce qu'on l'appelle le suspin. C'est un champignon par son petit filament qui prend de la nourriture dans le pin et qui va l'apporter à distance, par conséquent, aux racines de la monotrope qui donc est nourrie. Bon, ça se complique encore davantage dans des cas qui ont été étudiés au Canada. Vous connaissez la forêt boréale, il y a des conifères et il y a...
Des Douglas
surtout, oui. Et puis il y a des bouleaux. Oui. Eh bien, on a montré qu'en été, le bouleau, en pleine feuille, floraison, en pleine foliation, donne de la nourriture au Douglas. Il nourrit le Douglas par la racine et par les filaments.
Ils se donnent la béquille souterraine, là, comme
ça. Ils se donnent la béquille souterraine.
Quel est l'intérêt ? Je veux dire, c'est quoi pour... eh ben, que chacun y trouve son compte, mais...
L'intérêt, c'est que chacun y trouve son compte, parce que si ce bouleau est si gentil, il va recevoir en retour une gentillesse de la part du Douglas, parce qu'il y aura l'automne, parce qu'il y a le printemps, et que là, il n'a pas de feuilles. Donc, il ne peut pas faire de la nourriture. Et donc, le Douglas, qui déjà s'est réveillé de son sommeil hivernal, ou qui, en automne, n'y est pas encore rentré, et qui fait encore la photosynthèse, envoie au bouleau, qui n'a pas de feuilles, et qui donc est dénutri, des sucres, et ils se nourrissent ainsi, chacun à leur tour.
C'est une jolie fable, ça pourrait s'appeler le caduc et le persistant.
Oui, mais c'est le caduc et le persistant, c'est voilà. Tout à fait ça. Et donc, on voit que l'équilibre est très bien fait. Quand le caduc est en situation difficile, le persistant le nourrit, et quand le caduc est en pleine forme, il donne un bon coup de main au persistant. Et alors, il y a des cas où ça dégénère. Il y a deux plantes, un panique, c'est une herbe, et un plantain. Eh bien, le panique, il pompe le plantain. Et quand ils sont tous les deux ensemble installés à quelque part, on voit petit à petit les plantains disparaître et les paniques se porter très, très, très bien.
Donc là, ce n'est plus la coopération. Là.
C'est... Non, alors ça a glissé. Oui. Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas des frontières absolues. Mmh. Et qu'entre la symbiose et le parasitisme, il y a une capacité de passer de l'un à l'autre. Et un autre exemple très intéressant, quand il y a une friche, oui. On a démoli une maison, et il y a les gravats, puis il y a des herbes qui apparaissent. Mais si vous y retournez 3 ans après, toutes ces herbes ont disparu. Elles sont remplacées par des herbes qui sont stabilisées et qui se sont installées. Les pionniers ont tous disparu. Eh bien, les pionniers se sont fait pomper par les autres qui sont arrivés. Et ainsi, les pionniers pompés crèvent, les autres les remplacent, ils se font pomper aussi, ils crèvent aussi, et finalement, un équilibre s'établit au bout de 3 ou 4 séquences successives, et on a l'équilibre de la nature. Donc on voit que finalement, l'écologie, c'est des choses qu'on n'avait même pas imaginées il y a encore 10 ans. Et quand, dans un maquis corse, les chênes verts prennent le dessus, pourquoi ils prennent le dessus ? Parce qu'ils pompent les arbousiers. Et tout ça, c'est grâce au réseau des champignons. C'est Internet.
Oui, c'est une grande toile.
Et c'est une immense toile, et les sucres, les aliments passent dans la toile. Alors on termine, parce qu'il y a une belle histoire, c'est l'arbre de Noël. On n'a pas été foutu de mettre des conifères en Australie. On y a apporté un sapin de Noël. Et puis un forestier a eu l'idée de mettre le sapin avec la motte dans le sol. Parce que dans la motte, il y avait les filaments de champignons. Et le sapin ne pouvait pas prendre dans le sol australien parce que les champignons n'étaient pas là. Eh bien, grâce à cette motte qu'on a mise dans le sol australien, le sapin a poussé. Et puis, on a fait venir comme ça des échantillons de sol. Et on a pu instaurer le sapin en Australie alors qu'on n'y avait pas réussi grâce aux champignons qui sont petits. C'est des tout petits. Ils sont dans l'obscurité. Ce sont des filaments. Personne ne les voit. Est-ce les plus faibles ?
Voilà. Et le Père Noël donc a pu arriver en Australie, oui. Alors qu'il ne connaissait pas ce continent avant.
Non, avant il ne connaissait pas.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Pelt, la raison du plus faible chez Fayard. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam. Tidam, tidam. Je n'aurais pas cru que tu souffrirais. J'ai fait comme si j'avais rien vu. J'étais trop pressée de te quitter. Je me fais la pelle. Je cours, j'ai des ailes. Je ne voudrais pas me changer en statue de sel. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam, tidam. Je t'oublierai, quelle belle surprise. Moi si abusive, je suis détachée de toi que j'aimais à peu près. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam. Un petit air. Légère comme l'air. Tidam, 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 tidam. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam. Un petit air qui rend légère, légère comme l'air. Tidam, tidam. Tidam, tidam. Tidam, tidam.
Choisi par Emmanuel Chupin, donc notre programmatrice, c'était Rachel Desbois, Tidam, et c'était tout à fait agréable. Donc suite de CO2 Mon Amour, et là on va changer de registre avec Jean-Marc Jancovici, qui est un homme qui est ingénieur, qui est un ancien de Polytechnique, qui est consultant, qui est enseignant, et puis surtout qui n'a pas exactement de langue de bois, et qui a écrit avec Alain Grandjean, qui lui est économiste, un ouvrage qui s'appelle « C'est maintenant, 3 ans pour sauver le monde ». On se dit « Ah, 3 ans, évidemment, ça reste peu de temps ». On va dire que heureusement, dans ces 3 ans, on aura la réunion climatique de Copenhague, cette fois-ci avec les États-Unis, donc l'année prochaine. Mais quand même, donc on va faire un petit peu le point avec vous, Jean-Marc Jancovici. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Jean-Marc, on va peut-être parler tout de suite avec vous des enjeux quand même de ce siècle. On les remet sur la table aujourd'hui. Quels sont donc les enjeux de ce 21e siècle en matière d'énergie, de climat ?
Alors, un enjeu de ce 21e siècle absolument central, donc sur l'énergie et le climat, on peut le résumer comme suit. Nous sommes 7, 8, 9 milliards de bons hommes. Il y a des stocks de pétrole, de gaz et de charbon qui sont ce qu'ils sont, qui ne permettront pas d'avoir une consommation croissante pour plus d'une vie d'homme. On va dire que pour le pétrole, la croissance de la production va s'arrêter dans les années qui viennent. Pour la croissance de la production du gaz, ça va s'arrêter dans la décennie qui vient, 10-15 ans. Et même pour la croissance de la production de charbon, ça va s'arrêter avant qu'une partie des gens qui nous écoutent soient morts.
Bien.
Il ne faut pas qu'ils soient trop vieux quand même.
Non.
Et en face de ça, vous avez 7 milliards de bonshommes qui ont envie, pour ceux qui ont une voiture, de la garder et pour ceux qui n'en ont pas encore, d'en avoir une. Et donc, on a un vrai problème.
Bon, alors de quoi est-on sûr et de quoi n'est-on pas sûr quand même ?
Alors, on est sûr des mathématiques. Et les mathématiques, elles disent quelque chose de très simple. Elles disent qu'à partir du moment où on consomme un stock qui est fini, qui est donné, la consommation de ce stock ne peut rien faire d'autre que de commencer à zéro, de passer par un maximum et de décliner ensuite. Voilà, c'est valable pour le pétrole, c'est valable pour le gaz, c'est valable pour le minerai de cuivre, c'est valable pour le titane, le brome, le vanadium, le zinc, enfin tout ce que vous voulez, n'importe quel minerai ou hydrocarbure, obéit à cette loi. Pour le climat aussi. Le système climatique dépend de l'opacité de l'atmosphère terrestre aux infrarouges, ce qu'on appelle l'effet de serre. Et quand on augmente cet effet de serre, on change ou on dérègle, ça dépend si on a envie de connoter ou pas le mot qu'on utilise, la machine climatique. C'est quelque chose qui a joué un rôle très significatif depuis qu'il existe une machine thermique sur Terre, une machine climatique sur Terre. Et aujourd'hui, on est en train de dérégler la machine dans des proportions qui sont sans commune mesure avec ce qui a prévalu depuis que les hommes sont sédentaires, c'est-à-dire depuis 10 000 ans. Et ça va là aussi s'appliquer à une humanité de quelques milliards d'individus qui n'auront pas le loisir d'aller s'installer ailleurs si les conditions de par chez eux se mettent à devenir trop inconfortables.
Vous parlez de réchauffement ou de dérèglement climatique en ce moment ?
Alors, réchauffement traduit l'évolution d'un des paramètres du système climatique, qui est la température moyenne. Dérèglement traduit plutôt la notion que les choses se mettent à se comporter d'une manière pour laquelle on n'est pas préparé. Mmh. Et en fait, je préfère la deuxième version. C'est-à-dire que le système climatique va se mettre à faire de plus en plus des choses qui ne vont pas ressembler à ce pour quoi on était préparé. Je vais prendre un exemple tout à fait dans l'actualité. Si l'ouragan qui vient de s'abattre sur la forêt landaise, c'est le début d'une série parce que c'est le deuxième en 10 ans, il est évident que la forêt landaise n'est pas préparée à avoir ce genre d'assaut tous les 10 ans. Donc à la place de la forêt landaise, il faut mettre autre chose, ou des feuillus qui résistent très bien, ou de la bruyère. Mais en tout cas, on n'aura plus la forêt landaise. Donc les conditions qui changent, si elles se mettent à changer trop vite, et c'est vrai pour n'importe quoi, c'est vrai pour le climat, comme pour l'environnement économique, comme pour son environnement affectif, comme etc. Eh bien, on ne sait pas réagir face à ça dans de bonnes conditions.
Alors vous dites aussi, Jean-Marc Jancovici, que l'on ne sait pas interpréter les signaux faibles. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les signaux faibles, on les connaît tous. C'est le petit grain de beauté qui apparaît sur la peau et qui fait qu'on devrait aller consulter un médecin et qu'on ne le fait pas et que 10, 15, 20 ans après, on se retrouve avec un truc très désagréable qui s'appelle une tumeur. Donc les signaux faibles, en gros, c'est ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Et que, ou on n'a pas envie de voir, ou tout simplement on ne voit pas parce qu'on n'avait pas la tête à ça. Alors, en matière d'énergie et de climat, des signaux faibles, il y en a pléthore. On en a rappelé quelques-uns dans notre livre, et je vais en donner juste deux exemples. Dans le monde pétrolier, les signaux faibles, c'est la multiplication des déclarations, non pas des groupes écologistes, parce que ce n'est pas eux qui ont l'information
non, mais
primaire,
des pétroliers eux-mêmes.
Mais des pétroliers eux-mêmes. Oui. D'accord ? Alors, que disent les pétroliers eux-mêmes ? Le patron de Total dit « la production mondiale de pétrole va s'arrêter de croître dans les 5 ans qui viennent ». L'ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie dit « la sécurité d'approvisionnement en pétrole sur le plan mondial n'est pas assurée pour la décennie qui vient ». C'est le patron de Shell, ou plus exactement la société Shell, qui publie un scénario pour les 45 ans qui viennent qui vous glace le dos, mais vraiment qui vous glace le dos. C'est-à-dire quand on lit ce truc-là, ils expliquent qu'on va droit vers un monde où le conflit se généralise, les conflits militaires se généralisent et où la paix devient de plus en plus menacée à cause de l'accès aux ressources que chaque pays va vouloir essayer de faire chacun dans son coin.
Donc on entend bien que ce sont des questions de démocratie qui sont derrière.
C'est évident. Oui. Les problèmes dont on parle, c'est des problèmes qui vont soumettre la démocratie à des contraintes croissantes et il n'est pas du tout dit qu'elle y résistera. Y compris dans des pays qu'on considère comme civilisés pour l'éternité, comme par exemple le nôtre. Donc pour finir sur les signaux faibles, c'est encore l'Institut français du pétrole où le géologue qui s'occupe des questions de ressources pétrolières, qui s'appelle Yves Mathieu, explique à qui veut l'entendre dans les congrès mondiaux que la production de pétrole est proche de son maximum et que ça va être le cas pour la production gazière dans 10 ans, plus ou moins 5 ans. Donc c'est tous ces signaux. Et en fait, il faut être, non pas aveugle, mais sourd pour ne pas les entendre. Et si je peux me permettre une petite pique, on peut se demander ce que font vos confrères quand ils se dépêchent de ne pas relayer ce genre d'informations. Alors, ils le font de temps en temps. Oui. Mais enfin, à mon avis, ils devraient en parler plus souvent que le PIB, parce que le PIB, c'est une convention, alors que ça, c'est bien réel. Hein.
Alors ça, on va y revenir effectivement sur ce fameux PIB. Donc, l'art de compter ce que l'on gagne n'est jamais évidemment ce que l'on doit. Auparavant, quel est le rapport entre les phoques du Groenland et puis les centrales électriques?
Alors ça, c'est un autre des signaux faibles. La banquise qui entoure le Groenland a tendance à diminuer actuellement, ou plus exactement, la superficie qu'elle occupe à la fin de l'été, en septembre, a tendance à diminuer. Dans les années 80, cette superficie se promenait aux alentours de 7 millions de kilomètres carrés lorsque la banquise était à son minimum fin septembre. En 2007, l'étendue de la banquise à la fin de l'été a été de 4,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire quasiment la moitié de ce que c'était il n'y a pas seulement 25 ans.
Et comme rien ne s'opère et tout se transforme, et bien évidemment, ça va dans l'eau.
Alors, ce n'est pas ça le problème, parce que comme la banquise flotte sur l'eau, la fonte de la banquise ne change pas le niveau de l'océan.
Et mais je vous parlais moins bien du Groenland. Hein,
donc, alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on remplace la banquise, qui est une surface très réfléchissante, par de l'eau de mer, qui est une surface très absorbante, ce qui se passe, c'est que la surface emmagasine plus de chaleur qu'avant. Et comme la surface qui emmagasine cette chaleur, c'est celle qui entoure le Groenland, ça veut dire que la calotte groenlandaise va se mettre à fondre à vitesse accélérée. Et ça aussi, c'est un signal faible, en ce sens que ce n'est pas dans le journal tous les matins. Mais la fonte de la calotte groenlandaise est en train de s'accélérer à une vitesse proprement stupéfiante. Et ça va avoir une influence sur ce qui va se passer à Clermont-Ferrand de la manière suivante. La montée du niveau de l'eau va menacer, à l'occasion de crise, parce que c'est comme ça que ça va se menacer, que ça va se manifester, pardon, que ça soit l'ouragan qu'on vient de prendre sur les Landes, que ce soit l'ouragan que les États-Unis ont pris à la Nouvelle-Orléans, que ce soit une tempête qu'on va prendre ici et là. C'est à l'occasion de ce genre de processus que la mer va occasionner des dégâts. Mmh. Eh bien, le niveau de la mer qui monte doucement, à l'occasion d'un phénomène extrême comme ça, va déborder les défenses qu'on aura mis pour protéger quelque chose. Alors, c'est quelque chose à protéger. En bordure de mer, il y en a plein. Il y a les ports qui servent au commerce mondial, dont le PIB de Clermont-Ferrand dépend un tout petit peu. Il y a des routes, il y a des voies de chemin de fer. Et puis, il y a surtout des centrales électriques. Et pas seulement les centrales nucléaires. Il faut savoir que 85% de l'électricité produite dans le monde est produite avec une machine thermique. En gros, on fait bouillir de l'eau.
C'est une bouilloire, quoi.
Voilà, c'est une grosse bouilloire.
Que ce soit du charbon, du nucléaire ou du fioul, etc.
Absolument. Quand on va aux États-Unis et qu'on vous montre un aéro-réfrigérant, l'Américain moyen pense centrale à charbon. Quand on vous montre la même chose en France, le Français moyen pense centrale nucléaire. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire bouillir de l'eau avec du nucléaire, on fait bouillir de l'eau avec du charbon. Et cette eau qu'on fait bouillir fait de la vapeur avec laquelle on fait tourner une turbine à vapeur qui fait de l'électricité. Pour avoir une machine thermique efficace, il faut la refroidir. Donc il faut avoir une source chaude, nucléaire, charbon, peu importe, et une source froide. Et une source froide importante, vous avez l'eau de mer, ça marche très bien. Donc une bonne partie des centrales électriques mondiales sont placées en bordure de mer. Voilà, maintenant je ne vous fais pas de dessin. Si on est en bordure de mer, c'est comme disait Monsieur de la Palice, on est près de l'eau. Et si on est près de l'eau, c'est que quand le niveau monte, à l'occasion d'un phénomène extrême, eh bien, vous pouvez avoir l'inondation de la centrale. Et si vous avez un nombre suffisant de centrales qui sont inondées, et qu'en même temps, pour revenir à mes signaux faibles du début, M. Poutine décide de nous couper le gaz, qui lui-même approvisionne 15% des centrales électriques européennes, eh bien, vous commencez à avoir des problèmes avec le réseau électrique. Et si vous avez moins ou plus du tout d'électricité, il va se passer des choses à Clermont-Ferrand comme ailleurs. Donc ce qu'on a essayé d'illustrer, c'est que le monde est foncièrement interconnecté au niveau de ces processus physiques globaux dont on est en train de parler, et il ne faut pas croire du tout que cette affaire de fonte de la banquise, par exemple, ne concerne que les pingouins ou les ours blancs, sur qui on va un petit peu pleurer, parce que quand même, il faut le faire, c'est bien vu, mais que quand on travaille à la manufacture Michelin à Clermont-Ferrand, on est déconnecté du problème, c'est faux.
Je suis si près du bout de l'île, encore un pas prêt à tomber, un geste doux presque fragile, je suis si proche de nos étés. Tout est si calme un peu plus bas, qu'on sentirait l'herbe pousser, le tonnerre et le calme plus large, l'air sur nos joues s'abandonner. Derrière les brumes, le continent. Derrière les brumes, le continent. Je suis si près du bout de l'île, aux confins de terres inconnues, tout juste un battement de cils, pour croire ce qu'on a toujours su. Et tout me ressemble ici bas. Un peu de moi dans cet écu qui mouille un ciel un peu trop bas pour voir le bout de la lagune. Derrière les brumes, le continent. Derrière les brumes, le continent.
Joseph d'Anvers sur France Inter dans C'est haut de mon amour, le continent et l'île dont il parle. Eh bien, il ne faudrait pas que ce soit Tuvalu ou bien d'autres îles qui actuellement, évidemment, voient la mer remonter pour cause de réchauffement climatique. Alors, nous parlons de cela avec Jean-Marc Jancovici, avec son ouvrage « C'est maintenant, 3 ans pour sauver le monde » signé avec Alain Grandjean aux éditions donc, du Seuil. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes parce que rien qu'en cliquant sur nucléaire, énergie renouvelable, on peut faire une émission complète. Il y a aussi des choses très intéressantes aussi lorsque vous dites que le progrès en fait vise à raccourcir les distances et le temps et les délais, que être ingénieur c'est chercher pour aller au plus court, plus vite, plus puissant partout et refuser un peu toute limite qui est un peu notre religion contemporaine. Bon, bah, tout ça évidemment on est en train de revoir joyeusement tous ces merveilleux paradigmes. Et puis alors simplement peut-être Jean-Marc Jancovici, enfin quand je dis simplement c'est entre guillemets, racontez-nous l'économie des hommes, comment ça marche?
L'économie classique, celle qu'on utilise aujourd'hui, elle a 2 dates de naissance. Le PIB dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, lui, il date de l'après-guerre. Et avant, on avait toujours une économie, et l'économie classique qu'on utilise date plutôt d'il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, comment se présentait la situation physique sur Terre? On avait des ressources surabondantes, plein de poissons dans la mer, plein d'arbres sur le sol, plein de minerais sous le sol, plein de pétrole qu'on commençait tout juste à utiliser, c'est plutôt 1850. Et on avait une limite physique qui était le nombre de paires de bras disponibles. Mmh. Et une deuxième limite physique, dérivée de cette première, qui était les biens durables qu'on pouvait mettre au service de la production économique. Alors on a bâti un système économique, un système conventionnel pour mesurer ce qu'on fait, qui s'appelle l'économie classique et dans lequel on ne fait rentrer que 2 termes. Tous ceux qui ont fait de l'économie à l'école doivent s'en rappeler. C'est la production est une fonction du capital et du travail. En gros, on ne mesure par construction que le facteur humain. Arrive la fin du XXe siècle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des bras, on en a plutôt trop, puisqu'on a du chômage, que du capital, on en a plutôt trop, puisqu'on a des bulles spéculatives, et qu'il y a un truc qui commence à devenir le facteur limitant dans tout ça, c'est les ressources naturelles. Et pourtant, on ne le compte toujours pas dans notre système économique. Donc notre système économique, il est par construction fait pour ne pas voir arriver les limites qu'on va avoir sur les ressources naturelles. Et si on ne prend pas un peu de hauteur de vue sur les flux physiques qui sous-tendent les activités économiques, on fera faillite sans même comprendre pourquoi.
Bon, que font les énarques et que font effectivement les économistes alors?
Alors les énarques, ils continuent à apprendre de l'économie classique et pas de physique, parce que quand vous regardez le programme des cours à l'ENA, vous voyez qu'il n'y a pas de physique dans le programme des cours à l'ENA. Il n'y a pas non plus, ou il n'y en a quasiment pas, dans le cursus qui est destiné à la quasi-totalité des gens qui nous dirigent. Et même chez les gens qui font des études scientifiques, ce qui a été mon cas, on n'insiste pas à la mesure de ce qu'il faudrait faire sur le lien entre les flux physiques et les flux économiques.
Mais alors, ce refus des limites, ça va durer jusqu'à quand? Parce que les modèles actuellement sont quand même toujours effectivement sur une croissance, avec un État qui incite toujours effectivement à plus d'offres en quelque chose.
Oui, c'est tout à fait normal ça. Encore une fois, c'est quoi l'activité économique sur le fond? C'est je prends des stocks naturels, des minerais, des hydrocarbures, des arbres, des poissons, etc. Je les transforme en utilisant du reste pour cela de l'énergie, puisque l'énergie, c'est par définition ce qui caractérise une transformation en physique. Et j'en fais des biens qui ont une valeur économique, c'est-à-dire que des gens sont prêts à m'acheter. Aujourd'hui, dans une comptabilité normale, on devrait compter dans ce genre de processus en positif ce qu'on a créé, en négatif ce qu'on a consommé, les minerais, les sols, les arbres, etc. Et puis on regarde si le plus et le moins donnent un résultat qui est vraiment positif, auquel cas on a raison d'avoir fait des micros, des claviers d'ordinateur et des machines à café, ou si le résultat est négatif, auquel cas il faut arrêter d'en faire.
Ce qui veut dire qu'il faudrait arrêter, on va dire, de taxer le travail, éventuellement certains biens, mais de taxer les ressources naturelles.
L'utilisation, plus exactement, des ressources naturelles. Alors, dans ce qu'on a pris aujourd'hui comme indicateur économique de base, donc le PIB, en fait, c'est la fiche de paye de l'humanité. Le PIB, c'est le cumul des revenus humains qui sont tirés de la transformation des ressources naturelles. Je vais répéter ça parce que c'est important. C'est donc le cumul des revenus humains, c'est juste ce qu'on a payé à des hommes, soit parce qu'ils sont propriétaires, soit parce qu'ils ont travaillé, pour transformer des ressources naturelles. Mais jamais, nulle part dans ce système, on ne paye les ressources naturelles. Ouais. Et jamais, nulle part dans ce système, on ne fait de bilan. C'est-à-dire on compte en positif ce qu'on crée et en négatif ce qu'on détruit. C'est donc un indicateur qui est sans seuil. Le PIB n'a pas de seuil. Le PIB ne vous dit pas de lui-même. Là, je suis à un niveau satisfaisant.
Je suis au taquet. Et non,
il faut s'arrêter. Pas. Il ne vous le dit pas. Et par ailleurs, les finances publiques et la comptabilité publique et les systèmes économiques ont tous été basés en prenant ce flux, cette valorisation du travail humain, comme assiette. Là, on voit tout de suite l'effet qui en découle, c'est qu'on a toujours intérêt à ce que l'assiette augmente. Donc on est aujourd'hui pris au piège d'un système dans lequel la convention qu'on s'est choisie, on a besoin à court terme de le faire augmenter pour être capable de garantir l'équilibre du système, alors même que cette augmentation indéfinie nous amènera à notre ruine.
Au-delà de ça, vous parlez quand même très justement aussi du divorce entre la raison et l'émotion. Je voudrais que vous rappeliez quand même, vraiment en une phrase, ce que dit Jean-Pierre Dupuis dans un ouvrage qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé ». Il résume très très bien l'affaire parce que de la connaissance, on en a maintenant quand même sur beaucoup de problèmes.
Oui. En gros, il dit quelque chose qui est que nous ne croyons pas ce que nous savons. On va un peu plus loin que ça même, en ce sens qu'on explique que l'essentiel des obstacles au changement sont des obstacles culturels. Oui. Que l'idée que la technique sera mieux demain, c'est quelque chose qui sert juste à masquer notre paresse. Essentiellement, on n'a pas envie, donc on se retranche des trucs.
Qu'on a toujours fonctionné avec, lorsqu'il y a un problème, on trouve une technique.
Avec l'idée que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui, vous n'achetez plus un ordinateur, parce que vous dites, pourquoi est-ce que j'en achèterai un aujourd'hui ? Demain, il sera mieux. Donc ça c'est juste, c'est de l'autosuggestion. Je veux dire, non, il faut y aller un jour avec les moyens du bord, et c'est exactement ce qu'on dit dans notre bouquin, c'est que si on attend d'avoir les trucs qui nous permettront de résoudre le problème sans nous lever de notre canapé, on sera tous morts avant, quoi. Donc il va falloir faire des efforts. Et en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas envie de faire des efforts.
Oui. Parce qu'on est quand même dans un bain de jouissance immédiate qui est exploité par les médias. C'est-à-dire que le maintenant, le parce que je le vaux bien, vivre l'instant et le reste n'est qu'illusion, c'est quand même au cœur de la société.
Oui.
Et la consommation marche avant tout sur du désir.
Oui, alors notre société, je trouve qu'elle est en train de devenir de plus en plus ambivalente. C'est-à-dire qu'on a un mélange de deux pulsions qui sont quelque part très antagonistes, qui sont l'angoisse et la jouissance. Le supplément d'effort, c'est-à-dire la perte de jouissance, bon nombre de gens l'acceptent à partir du moment où ça les libère de l'angoisse. Donc on est dans
société... Il faut qu'il y ait une contrepartie,
exactement.
Façon, il faut qu'il y ait un
troc. La société dans laquelle il n'y a pas de vision et où on vous pique votre bagnole, c'est une société insupportable.
Tout à fait.
La société dans laquelle on vous dit « on va vous piquer un petit morceau de votre bagnole », sauf que, à côté de ça, on va vous donner une vision qui va vous redonner de l'espoir, on n'est pas complètement persuadé que c'est perdu d'avance. C'est exactement ça qu'on essaye de dire, c'est-à-dire que si on essaye juste de ne mettre en relief que la perte de jouissance dans le traitement du problème, vous ne donnerez jamais envie à personne et on n'ira nulle part.
Le problème est là, c'est comment on va donner effectivement envie, donner du désir pour arriver à changer donc, de civilisation, parce qu'on est en train de dire ça quand même. En ayant des grands programmes.
Ouais. Un jour, vous dites à des gens, on va aller sur la Lune, moyennant quoi, ils acceptent de passer une semaine dans une boîte de conserve, de pisser dans leur scaphandre, de manger de la bouffe dégueulasse dont vous ne voudriez pas, etc. Et ils le font. Parce qu'en face de ça, ils ont un défi à relever. Et quelquefois, le projet peut être mortifère. Quand le niveau d'angoisse est suffisant, le terreau est mûr pour qu'arrive un Hitler. Et je pense qu'on sous-estime le risque aujourd'hui. Clairement, on pense que je voudrais faire peur à personne, mais je pense qu'on sous-estime le risque. Donc, à partir du moment où on a un défi qui est exaltant par d'autres côtés, et tous Chacun à notre niveau, on en connaît des défis exaltants qui nous ont fait faire des efforts. Réussir un diplôme, séduire la personne qu'on a envie de séduire, arriver à faire une performance sportive, tous ces trucs-là nécessitent des efforts. Mmh. Et on accepte de les faire parce qu'on voit clairement où est l'enjeu au bout du compte. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est un discours politique lisible. Enfin, une des choses qui manque, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Faut pas toujours qu'on rejette la responsabilité sur les élus.
Oui, mais enfin, vous les trouvez parfois un peu désespérants quand
même. Il manque une offre. Oui, alors, vous savez, moi je suis un ingénieur, j'aime bien faire des expériences. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui avec une offre politique claire et les mêmes électeurs. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour le moment, on n'a pas essayé. Donc, l'offre politique claire, c'est une offre structurée, cohérente et sans contradiction, dans laquelle on sait clairement ce qu'on cherche. On sait clairement ce qu'on ne veut pas, on le dit, on le met sur la table et on affecte à cette transition des moyens qui ne sont pas 0,3% du PIB, c'est-à-dire 0,3% de la force de travail. Puisque comme je le disais tout à l'heure, le PIB, c'est la fiche de paye de l'humanité. Hein, où on affecte n'importe quoi, entre 10 et 30% des gens qui travaillent à la solution à ce problème.
Jean-Marc Jancovici, avant de se quitter, peut-être aussi un autre point vous, qui vous semble important, donc, et aussi dans la fin de votre ouvrage, lorsque vous parlez effectivement du maintenant, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne bien ?
Oh, je pense que la chose essentielle à retenir, c'est qu'on ne résoudra pas ce problème en y affectant 0,5% de la force de travail. Donc ça veut dire que c'est un vrai projet structurant. En d'autres termes, si on considère que de s'affranchir des combustibles fossiles avant que ce soit eux qui s'affranchissent de nous est digne de servir de colonne vertébrale à un projet politique, on se rend compte qu'on a tout traité ou à peu près. On a traité la question sociale, on a traité la question du travail, parce qu'il y en a plein de la question du travail, on a traité la question de l'équité, on a traité la question de l'aménagement du territoire, on a traité la question des transports, on a traité la question de la diplomatie, on a traité la question de la géopolitique, on a traité la question de l'agriculture, et c'est exactement ce qu'on explique dans la fin de notre bouquin. C'est un truc qui est tellement structurant, et du reste, Obama semble, je suis désolé de ne pas faire le chauvinisme que j'aurais pourtant aimé faire, semble s'en être rendu compte avant les dirigeants européens. Ce qui est regrettable, parce que je considère que l'Europe a par ailleurs un système politique avec la Commission et le Parlement qui est quelque chose qui est beaucoup plus adapté aux enjeux de long terme que le système américain. Donc c'est vraiment dommage que les dirigeants européens n'aient pas enfourché ce cheval de bataille avant.
Et derrière tout ça, il y a aussi notre bonheur personnel. Et donc ça veut dire qu'on va redéfinir gentiment le progrès et de faire, on va dire, plus de bonheur avec sûrement moins de matières premières. Et on devrait peut-être pouvoir s'en sortir.
On n'a pas tellement le choix de toute façon. Donc voilà. Il va bien falloir le faire.
Merci à vous Jean-Marc Jancovici. C'est maintenant 3 ans pour sauver le monde avec Alain Grandjean au Seuil. À très bientôt. Au revoir Jean-Marc.
Au revoir Denis.
Sophie Hunger sur France Inter, Round and Round. Et maintenant, donc, nous allons faire un tour du côté de l'Aquitaine qui est meurtrie avec Antoine Crémer, qui est directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux, qui est un homme qui est spécialiste des arbres depuis très longtemps, qui est diplômé de l'école des barres de Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret. Et donc, j'ai remercié France Bleu Bordeaux-Gironde qui vous accueille. Antoine Crémer, bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, je dirais tout à fait directe. On sait que malheureusement, il y a eu 50% de bois qui sont tombés il y a 10 ans. Oui. Même si aujourd'hui, c'est quand même moins, il y a quand même 300 000 hectares qui sont détruits sur à peu près 1 million. Donc, c'est énorme. Est-ce que cette affaire-là est durable ou soutenable, indépendamment évidemment de ce que vivent nos amis actuellement qui sont évidemment dans la peine et dans la douleur? Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça?
Tout d'abord, moi, je voudrais relativiser l'événement en le plaçant un peu dans un contexte plus général. D'abord, dans un contexte historique des tempêtes. En fait, on connaît surtout celle de 99 et celle de la semaine dernière. Mais en fait, des tempêtes, il y en a eu régulièrement, y compris dans le massif landais. Quand j'ai commencé ma carrière au milieu des années 70, en décembre 76, il y a eu une grosse tempête dans le sud des Landes qui a occasionné des dégâts considérables. Et puis, il y a eu la tempête en 87 dans l'ouest de la France, la tempête en 90 dans tout le nord de l'Europe. Je me souviens, en Allemagne, il devait y avoir plus de 70 millions de mètres cubes de Chablis, donc c'est considérable. Alors je retrace là les tempêtes au cours de la moitié du dernier siècle, mais quand on remonte l'histoire, il y a des traces de tempêtes qui ont eu lieu au siècle dernier, au siècle précédent.
Ça fait partie de la vie des hommes et des forêts, c'est ce que vous nous dites.
Oui, ça fait partie de la vie, et je dirais même, c'est le deuxième point, que dans certains cas, c'est un processus évolutif des forêts. Par exemple, les forêts tropicales ne se renouvellent que quand vous avez ouverture, quand vous avez chablis, quand la lumière arrive au sol et que les graines puissent se développer. Et de la même manière que le feu, ça permet également à certaines forêts de se régénérer.
Il y a ce qu'on appelle les plantes pyrophytes, donc, qui ont besoin du feu, effectivement, pour pouvoir ressortir.
Ou d'autres qui ont besoin de lumière ou d'éclairement au sol pour pouvoir se renouveler. Alors ça, c'est dans un contexte, bien sûr, plus général des forêts naturelles. Ici, on est dans un contexte totalement différent. Mais c'est un processus, ces tempêtes sont également un processus évolutif de renouvellement des forêts.
Alors ce qui risque de changer, bien sûr, c'est malheureusement la violence et l'intensité de ces fameuses tempêtes. Mais bon, maintenant, on reclique, on va dire, effectivement, sur cette région de Gironde et des Landes. Oui. Donc, ça a été construit artificiellement déjà depuis le 19e siècle. Mmh. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce que ce fameux pin maritime, qui est superbe, qui est un colosse de 30 mètres, mais qui a des racines peu profondes, est-ce que c'est durable, cette histoire-là, ou bien est-ce qu'il faut penser autrement?
Bon, les conditions sont un peu particulières dans les Landes par rapport à d'autres sols forestiers, en ce sens que vous avez d'abord un sol sableux, donc qui est assez meuble, donc qui ne favorise pas un ancrage très fort. En plus, ce sont des sols qui ont souvent des nappes phréatiques, très proches du sol en hiver. C'est ce qui était le cas il y a deux semaines. Et donc, l'ancrage est beaucoup plus faible en hiver. Et si là-dessus, vous avez une tempête, les conséquences sont inévitables. Et c'est ce qui est arrivé. Mais je dirais, ce n'est pas lié, au contexte particulier de la forêt plantée landaise. Alors là, on a mis l'accent la semaine dernière sur la situation landaise. Mais je rappelle qu'en 99, finalement, les forêts, quel que soit leur régime, ça a été les chênes et du centre, parce que la tempête était plus large en Europe, ça a été les chênes et du centre, les hêtraies du nord-est, les sapinières des Vosges, toutes les forêts dans lesquelles il y a eu des vents supérieurs à 120-130 km/h ont eu des dégâts, et des dégâts importants.
Alors, est-ce qu'il faut replanter de la même manière? Moi, je vous entends là, effectivement. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire pareil? Il faut remettre exactement du pin maritime?
Non. On a tiré des leçons quand même. On a tiré un certain nombre de leçons à la fois des tempêtes de 99 et tous les pays qui sont soumis souvent à ces contraintes, comme l'Écosse, le Pays de Galles, la Tasmanie, etc. On a fait des expérimentations. On a un certain nombre de résultats qui permettent aujourd'hui de raisonner cela un peu mieux et d'adapter des mesures nouvelles. Alors, qui peuvent être raisonnées soit au niveau des plans, au niveau des peuplements ou au niveau de la gestion de l'espace.
Il faudrait espacer donc les arbres pour qu'ils aient un peu plus d'enracinement.
Il y a deux manières. Ce qu'on a constaté, par exemple, c'est qu'il peut y avoir, au niveau du peuplement, il peut y avoir un effet masse C'est-à-dire que si vous plantez les arbres très serrés, mais que vous les maintenez serrés pendant toute la durée du peuplement, forcément donc à courte rotation, à ce moment-là, le peuplement résiste mieux. Mais si vous l'éclaircissez, à ce moment-là, vous avez des dégâts. À l'inverse, donc, en quelque sorte, c'est l'effet masse. Il y a un effet population qui fait masse, qui fait une meilleure résistance. Et vous avez l'autre scénario totalement inverse. Si vous mettez des arbres dès le jeune âge en face d'une contrainte comme le vent, l'arbre développe une résistance interne, développe un plan ligneux qui lui permet une meilleure résistance. Mmh. Mais il faut qu'il soit exposé. Donc, si les arbres sont trop serrés au départ, ça ne marche pas. Il faut les planter à ce moment-là, un large espacement dès le départ, et ne pas intervenir jusqu'à la fin du peuplement. Alors, du coup, on aura des arbres qui seront plus branchus, etc. Il faudra adapter des scénarios sylvicoles particuliers. On a deux extrêmes, là.
D'accord.
Soit forte densité, effet de masse, effet de population, soit on favorise une résistance individuelle, et à ce moment-là, on plante à plus large espacement, et les arbres développent une propre résistance.
Est-ce qu'on n'est pas un peu comme des marins qui ajoutent parfois de la hauteur de mât et puis de la voile et qui finissent tous par chavirer parce qu'ils ont oublié de lester la quille ? Vous voyez, c'est un peu... Moi, j'ai vu ça. On a vu ces images qui sont terrifiantes parce que là, en plus, contrairement à 99 où les arbres étaient déracinés, donc on a eu beaucoup de chablis qu'on a pu réutiliser, même si les cours, évidemment, ont baissé et vont baisser encore. Mais là, ils ont été vrillés, cassés.
Oui, enfin, il y a eu en 99 aussi, on a du chablis.
J'imagine, oui.
On a du chablis et du voli. Hein. La nouveauté,
c'est intéressant parce que ça, on ne sait pas vraiment. Donc, on appelle ça le voli.
Le voli, quand les arbres sont cassés.
D'accord.
Le chablis, quand l'arbre est déraciné.
Bien sûr.
La particularité de cette année par rapport à 99, c'est qu'on a eu de jeunes peuplements atteints. En 99, c'était essentiellement des peuplements qui avaient plus de 20 ans. Hein. Donc, quand vous avez un rapport hauteur sur diamètre qui est trop grand, quand les arbres, à ce moment-là, ils sont plus sensibles à ces dégâts. Mais on était très surpris, là, la semaine dernière, de voir des jeunes peuplements très atteints. Et on pense que c'est lié, enfin, il faudrait voir plus en détail par la suite, mais le fait que les sols, la nappe, il avait plu beaucoup les deux semaines précédentes, donc la nappe était plus superficielle, a sans doute conduit à un moins bon ancrage également.
Je reviens quand même, Antoine Crémer, à ma question de départ. Oui. C'est-à-dire que, bon, ça, c'était il y a 10 ans. De nouveau, on en a une. Là, on se prend une claque encore de 10 ans après.
Oui.
On va faire le lien directement réchauffement climatique. On est extrêmement prudent par rapport à ça. En revanche, ce que l'on sait, c'est que ces tempêtes seront malheureusement de plus en plus sévères. Si on reprend ça encore dans 10 ans, voyez, est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut faire moins de sylviculture ? Est-ce qu'il faut faire autre chose ? J'entendais Alain Rousset qui parlait, donc président de la région Aquitaine, qui parlait effectivement de pourquoi pas d'insister davantage à faire du bio. Enfin, je sais que derrière, attention, hein, y a une économie qui est forte, il y a 2,5 milliards qui sont en jeu, il y a des gens qui ne font que ça, donc on l'entend bien. Hein, là, on est vraiment entre le seuil économie, sociale, environnementale. Hein, tout y est là.
Oui. Non, je pense qu'il faut raisonner la durabilité de manière globale. Alors, ce n'est pas seulement le risque tempête. Je rappelle qu'il y a également, dans les Landes, on en parle moins souvent, mais il y a le risque phytosanitaire. Il s'agit d'un massif monospécifique. Et si vous avez une maladie qui se déclare dans ce massif, elle risque de se propager très rapidement et de causer des dégâts considérables. Et avec les changements climatiques, on sait très bien qu'il peut y avoir des maladies nouvelles.
Si je fais un parallèle, c'est un peu le système agricole aujourd'hui qui est quand même basé sur la juxtaposition, on va dire, de monocultures,
oui,
et qui fait qu'on a un colosse au pied d'argile. Quoi.
Oui, c'est ça. Mais donc, la durabilité, il faut la raisonner non seulement par rapport à la tempête, mais aux autres risques aussi, qui sont donc soit le risque phytosanitaire, soit les changements climatiques, qui sont donc des changements plus graduels. Et si vous voulez utiliser des techniques ou des méthodes qui répondent à ces trois risques, la mesure sans doute la plus adaptée semble de jouer sur la diversification, sur la diversité en quelque sorte. C'est utiliser la biodiversité comme une arme pour lutter contre ces risques. Alors, diversification, les forestiers ont installé des essais, on l'oublie trop souvent, depuis 50 ans. Et au départ, justement, parce qu'ils craignaient le risque phytosanitaire, on a installé des essais d'espèces dans les Landes. Il y a de très nombreuses espèces autochtones et étrangères, exotiques, qui ont été testées. Et on a des résultats. On a des espèces, en quelque sorte, relais. Alors après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut à la fois associer donc adaptation et également productivité, comme pour le pain maritime, la palette des espaces relais se réduit. On n'en a que quelques-unes et on reste toujours dans les pins. Alors, c'est des pins, le pin Teda américain, qui pousse, disons, depuis la Floride jusque dans le Maryland, sur des sols souvent un peu pareils aux sols landais, quand on choisit les bonnes origines du Nord qui résistent au froid, sur les meilleurs sols landais.
Pardonnez-moi, mais en tout cas, vous avez des amplitudes, moi, que j'ai découvertes aussi à cette occasion. Par exemple, au moment du printemps, on peut commencer la journée à moins 5 degrés et arriver à 16 degrés. Donc, il faut aussi des espèces qui tiennent bien ça.
Oui, non, mais quand on a testé les espèces, on les a testées depuis une cinquantaine d'années, donc on a une idée de leur adaptation possible. Donc, comme je parlais, il y a le pin d'Eda, peut y avoir le chêne rouge également sur les meilleurs sols. Donc, il y a des solutions de diversification. Il y a également des solutions de diversification pour l'espèce pin maritime elle-même, parce que le pin maritime, on le trouve dans les Landes, mais naturellement, il existe également en Corse, il existe au Maroc, il existe au Portugal, et on a introduit ces graines de ces différentes origines pour les tester dans les Landes. Et on sait par exemple que le pin maritime d'origine corse développe un système racinaire plus vigoureux, et par contre, il est plus sensible à certaines maladies, et donc on a fait des hybrides entre les Landais, les Corses, etc.
On entend bien la notion de diversité là, que vous avez effectivement, Antoine Crémer. Bah, donc c'est évidemment, c'est même d'ailleurs la grande mutualisation, on va dire, de la nature. Hein, on le dit depuis des années avec Jean-Marie Pelt, mais bon. Au-delà de ça, qu'est-ce que l'on peut faire de ce qui est à terre aujourd'hui? Est-ce que dans notre grande série, donc transformons, on va dire, une catastrophe en une belle opportunité, donc cher à Paul Virilio et à quelques autres, et heureusement. Et qu'est-ce que l'on peut faire de ça? Je veux dire, on repense ce modèle, on peut utiliser du bois énergie, on peut faire des plaquettes, on peut faire... Qu'est-ce que l'on pourrait faire?
Bien sûr, il y a des possibilités d'utilisation de la biomasse à des fins d'énergie. Alors, il faut que le contexte industriel soit présent. Et là, je connais moins le problème... moins bien le problème pour pouvoir répondre. Mais il faut se placer un peu dans le contexte du Grenelle environnement pour trouver des moyens et des mesures aux besoins, développer un plan comme on l'a fait après les grands incendies de 1949, à la fois pour remédier, pour trouver des solutions aux tempêtes elles-mêmes et pour valoriser les produits. Dans l'immédiat, il y a quelques conséquences quand même en termes écologique. Les conséquences principales sont bien sûr de nature économique. En termes écologiques, je rappelle quand même que le système de forêt cultivée est le système de forêt qui est le plus efficace en termes de capture du carbone. Hein. La forêt landaise était la forêt qui finalement était parfaitement en équilibre en termes de récolte, production de biomasse. On récoltait annuellement autant qu'elle produisait biologiquement. Au niveau français, c'est la seule type de forêt qui est en équilibre comme ça.
Et de ce point de vue-là, c'est
le système le plus efficace pour stocker du carbone. Et donc là, on a largué avec 300 000 hectares qui ont été détruits. Bon, on va avoir au contraire une décomposition importante des rémanents, enfin des branches, etc., et qui vont relarguer par décomposition un peu de carbone.
Donc ça va faire l'inverse, là, effectivement.
Ça risque de faire l'inverse, de manière significative.
Okay. Et c'est d'autant plus important.
Ça ne remet pas en cause le rôle de ces forêts. Encore au niveau mondial, quand on parle du rôle des forêts pour stocker du carbone, ce sont ces forêts-là qui stockent le carbone. Ce n'est pas la forêt d'Amazon, etc., qui est beaucoup plus âgée, etc., qui est la plus efficace en termes de stockage de carbone.
Oui, parce que c'est évidemment lorsque les plants sont jeunes, évidemment, qu'ils vont absorber davantage de carbone. Oui.
Donc, c'est pareil. Là, pour l'exploitation, il faudrait veiller à la meilleure solution pour entrer dans le stockage du carbone. C'est maintenant d'utiliser les produits également de manière durable, soit dans les construction, soit pour d'autres...
J'allais dire qu'on pourrait booster un petit peu plus, effectivement, dans notre pays, les maisons en bois, parce que là, c'est quand même un avenir incroyable. Il y a 4% seulement de maisons qui sont en bois. Et puis, quand même, rappeler que l'Aquitaine est parmi la région la plus touchée en matière de réchauffement climatique sur la France. Là, si on clique sur la case France, c'est celle où, effectivement, dans les modélisations du GIEC, c'est un petit peu supérieur, on va dire, à la moyenne.
C'est exact.
Donc, le mot pour vous, c'est quoi? C'est pas de rompre avec la monoculture du pain, c'est diversifier la filière, c'est quoi?
De toute manière, ces forêts cultivées, elles seront nécessaires. Si on raisonne au niveau mondial, c'est grâce aux forêts cultivées, de manière intensive, que l'on pourra garder les autres forêts naturelles dont le rôle est de conserver la biodiversité.
Mais pour qu'elles ne tombent pas tous les 10 ans, qu'est-ce que...
Absolument. Il faut adapter des systèmes de culture, comme je l'ai évoqué, prendre en compte les leçons qui ont été tirées de 1999 en termes de conduite des peuplements et jouer... sur la diversification éventuelle, soit au niveau de l'introduction de certaines espèces, soit en prenant également des hybrides entre le pain d'origine landaise et d'autres origines.
Eh bien, un grand merci Antoine Crémer. Merci à vous pour ces éclairages scientifiques. Je le rappelle, directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux. On vous avait aussi surnommé le Robin des chênes parce que vous adorez aussi, bien sûr, cet arbre-là. Merci beaucoup à vous et à nos amis de France Bleu Gironde qui vous ont accueillis.
Merci.